Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag. Traité Souka, page 20, DAF Kaf.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Souka, DAF Raf. La Braïta nous ramène toutes sortes de matières avec lesquelles on allait faire des matelas. C'est une matière qui est assez souple, donc qui pourrait être utilisée en tant que matelas. Alors on doit regarder par rapport à la taille. Si elle est grande, elle n'est pas désignée, elle n'est pas dédiée à être matelas, donc elle est kshéra pour le srar. Si elle est petite, elle est dédiée à être matelas, donc elle est psoula. Par contre, si c'est une matière qui est beaucoup plus rugueuse, ça dépend comment elle sera travaillée. Si elle est gdoula, c'est-à-dire qu'elle est, on l'a tressé, donc puisqu'elle est rugueuse, donc on peut considérer qu'elle n'est pas désignée à être matelas, donc elle est kshéra le srar. Mais si on l'a tissée, c'est beaucoup plus fin, donc elle peut être utilisée pour s'allonger dessus. Donc elle est psoula. Pour le srach, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi nous dit que de toutes les manières, qu'elle soit tissée ou que ce soit des nattes, on pourra l'utiliser en tant que srach. Rabbi Yossi nous disait la même chose. La Gemara nous ramène une braïta. On va voir la vue de Rabbi Yossi qui est contradictoire. Dans la braïta, il est marqué Kola Chotzalot, tout ce qui est Chotzalot. La Gemara va expliquer ce que c'est. C'est perméable à une Touma, Touma'at Metra. Rabbi nous dit que c'est même Touma, une Touma'at Midra, c'est-à-dire quand on s'allonge dessus, même si on n'est pas au contact physique direct, il y a une Touma. Devant la Gemara, quoi, il n'y a qu'une Touma'at Midras, seulement quand on s'allonge, mais au contact d'un mort, il n'y a pas. Et pourtant, il y a marqué que tout celui qui est métamé Midras, c'est qui a ce niveau supérieur de Touma, il est aussi perméable à l'impureté de Tmémet. Je dis à Gmar, oui, l'idée dans la vérité, c'est de dire que c'est même Tamé Midras. De quoi on parle? Deux explications. Première explication, Marzoubli, c'est un sort de sac que les bergers utilisaient et qu'ils utilisaient aussi en tant que coussin. Rech Lakish nous dit que c'est des nains. Je dis à Gmar, que Rech Lakish, quand il a expliqué ça, c'est Rech Lakish. On l'a vu que Rech Lakish expliquait aussi dans un autre endroit. Rech Lakish nous a ramené une histoire. Il disait que soit lui l'accaparat de Rabbi Chia à ses enfants au début, quand la Torah a été oubliée, Ezra nous l'a réussi à la réinstituer. Après, au Bayet Sheni, il y a eu encore un problème. Hillel est venu et a réinstitué. Et en fin de compte, il y a Rabbi Chia qui est venu et qui nous a rappelé encore un détail. Toutes les machatzalot, toutes les nattes qui sont faites à Usha. Donc elles sont toutes tmeot midras, puisque là-bas elles sont dédiées à être utilisées en tant que matelas. Toutes celles qui sont faites à Tveria, elles sont faites d'une manière où elles n'auront pas ce tomate midras, puisque elles sont dures, elles sont rugueuses, elles ne sont pas agréables pour s'allonger dessus. La machloquette qu'il y a entre Chachamim et Rabbi Dossa, c'est celle qui vient d'un autre endroit. Rabbi Dossa pense que puisqu'elles ne sont pas faites pour ça, et que personne ne les utilise pour ça, ça peut arriver des fois, mais ça n'est pas dédié à être utilisé en tant que s'allonger dessus, c'est pour ça qu'elles sont théorotes. Et Chachamim pense que puisqu'il y a des gens qui vont quand même l'utiliser pour s'allonger, on les définit comme atla, et donc elles sont Temea Midras. Donc on voit que c'est Rech Lakish les Shitato. On dit la Gemara, Rabbi Dossa nous a dit que quoi la Chotzalot Mitamin Tememet, c'est-à-dire qu'elles sont définies comme ustensiles et perméables à l'impureté. Pourtant, Rabbi Dossa nous a dit que toutes les sortes de machatzalot, on ne peut pas, elles sont permises pour le srach, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mekabel touma. Donc il faut se décider, les chotzalot, c'est mekabel touma ou pas? Pour la Gemara, ça dépend. S'il y a gedanfa ou pas gedanfa, c'est-à-dire s'il y a un rebord ou pas. S'il y a un rebord, donc c'est un récipient, donc c'est mekabel touma. S'il n'y a pas de rebord, c'est pas un récipient. Ça dépend si c'est fait pour s'allonger dessus ou pas. Non, la Gemara, elle ramène toutes sortes de matières, comme du jonc, comme des cheveux, des poils de bouc, comme des poils de chevaux. Donc tout ça, c'est métamé tmémet, et du verabi le sachar, ils nous disent que c'est métamé même midras. Nous dit la Gemara, explique sa question. Quand on a dit qu'on parlait de chotzalot, de nat, on parlait de ce qu'utilisaient les bergers en tant que sac. Alors je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une touma. Pourquoi? Parce qu'elles sont utilisées, celles qui sont faites avec de la matière un peu grossière, on peut utiliser en tant que récipient pour des grands fruits. Celles qui sont faites avec des matières qui sont un peu plus souples, on peut utiliser pour des fruits qui sont plus petits. Mais d'après celui qui dit qu'on parle de nattes, donc celles qui sont rugueuses, je peux comprendre qu'on peut les utiliser en tant que rideau ou en tant que tamis. Michel Cham, Michel Gemi, celles qui ne sont pas rugueuses, celles qui sont souples, on peut les utiliser en tant que tamis ou en tant que rideau. Mais celles qui sont plus rugueuses, elles vont servir à quoi et donc en quoi elles sont définies comme ustensiles? Et pour la Gemara, on l'utilise en tant que couvercle sur des tonneaux d'alcool. Il y en a qui ramènent cette question d'une autre manière. D'après le Mandé Amar, qui nous a dit, d'après Rech Lakish, qui nous a dit que la marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim parlait de nattes. Donc on peut comprendre que Cham et Gemi, elles peuvent être utilisées en tant que couvercle. Celles qui sont faites avec toutes sortes de poils ou de peau, on peut les utiliser en tant que rideau ou en tant que tamis. Mais d'après celui qui nous dit que Marzouvli, c'est-à-dire le sac qu'utilisaient les bergers, quand elles sont utilisées, quand elles sont faites à base de sacs ou de sphira, alors on peut comprendre qu'on peut les utiliser pour les petits fruits. Mais celles qui sont faites d'une manière rugueuse, quelle utilisation on peut avoir avec ce genre de natte? La Gemara nous répond, on peut l'utiliser pour des gros fruits. La Gemara nous ramène une Raita, que Rabbi Chania nous disait que quand il est descendu en Gola, il a parlé avec un Talmid Chacham, il lui a dit, on a le droit d'utiliser une natte pour le srach, mais Rabbi Yoshua nous a dit, tu as raison, que comme ça, il faut enseigner, mais à condition, c'est-à-dire à condition qu'elle n'ait pas de rebord. Oula nous dit que celle qui vient de Mechosa, si elle n'avait pas de rebord, on aurait pu utiliser le même sraf, donc c'est la même, on aurait pu les utiliser en tant que sraf, donc c'est le même enseignement. On ramène une braïta où il est marqué clairement que ces genres de nattes, à partir du moment où elles n'ont pas de rebord, on peut les utiliser. La Mishnah du Perek Sheni nous dit celui qui dort sous un lit dans la soukha n'a pas été etzelechova, mais Rabbi Yehuda pense qu'on peut dormir. Il disait que lui-même dormait sous le lit, personne ne lui a jamais rien dit. Rabbi Shimon raconte que Tavi Avdo, Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel, dormait sous le lit. Et Rabban Gamliel leur a dit, regardez, Tavi, c'est un Tamit Raham, puisqu'il est esclave, il sait qu'il a le droit de dormir sous la soukha. Donc nous, on a déduit de là que c'est seulement un esclave qui est pas tour de soukha qui a le droit de dormir sous un lit, mais sinon on n'a pas le droit de dormir. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que Bémet, on n'aurait pas le droit de dormir? Arrêt, sous le lit, il n'y a pas dit Farim, et donc ça n'est pas défini comme un Roel, et donc elle serait l'interdit. Shmuel nous explique, on parle d'un lit qui a une hauteur de dit Farim, c'est pour ça que sous le lit, c'est défini comme un Roel. La Gemara nous ramène une Braïta qui est l'introduction de la question qu'elle posera demain. Un trou qui a été fait par l'eau, ou qui a été fait par des rats, ou qui a été fait par le sel, ou alors des pierres qui sont posées l'une sur l'autre, ou alors des poutres qui sont posées l'une sur l'autre, et tout ça, ça a créé un Roel, c'est-à-dire ça a créé un espace de un Tefar. Ça va lui donner le statut de Oel, et donc une Touma qui se trouvera à l'extrémité de l'un de ces endroits, sous tout cet endroit, ce sera tamé. Rabbi Yehuda pense que puisque ça n'a pas été fait bidé à l'âme, ça n'est pas défini comme Oel. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda pense que ça n'est pas défini comme Oel? Puisqu'il est marqué Oel au sujet de la Touma, et il est marqué Oel au sujet de Mishkan, de la même manière que le Mishkan a été fait par un homme, de la même manière, un Oel doit être fait par un homme. La Gemara nous dit qu'est-ce que Rabbanan vont faire avec ça? Comme il y a marqué plusieurs fois le terme d'Oel, donc on comprend que n'importe quelle sorte de Oel est définie comme Oel. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On a vu qu'une natte qui a été faite, alors il y a des nattes qui sont dédiées directement par leur taille ou par leur matière à être rares et ne pas être matelas, et c'est pour ça qu'elles seront kshirot pour le srar. Il y a des nattes qui, par leur matière et par leur natte, on comprend qu'elles sont dédiées à être utilisées en tant que matelas et elles sont psoulot. Il y a d'autres nattes qui, puisqu'elles ont un rebord, donc elles sont définies comme ustensiles et elles sont pturot mi souka. Il y a une marloquette entre Rabbi Dosa et Chachamim au sujet de certaines nattes qui n'ont pas été dédiées clairement à être matelas. Est-ce qu'on les considère quand même comme matelas, non pas par rapport à la soukha, mais par rapport à la Toumat Midras, ou alors on ne les considère pas comme matelas? Dans la Mishnah, il est marqué que marloquette, est-ce qu'on a le droit de dormir sous un lit dans la soukha? Et la Gemara nous explique qu'on parle d'un lit de Jit Fahim de hauteur. Mis à part ça, on a vu que Rabbi Yehuda pense qu'un Oel qui n'a pas été fait par un homme, un Oel qui s'est fait tout seul, n'est pas défini comme un Oel. Le Daf est clair, Baruch HaShem, et demain, Bezrat HaShem.